Ce matin, je voudrais nous entretenir sur ce passage de Marc qui parle du jeune homme riche. Je pense qu'on est conduit comme cela ce matin. Et je voudrais intituler ce message « Saisis ton héritage ». Il est temps pour toi de saisir ton héritage. Ce matin, nous avons un rendez-vous avec Dieu. Amen. Tu as rendez-vous avec le Seigneur. Comment est-ce que je me présente quand j'ai rendez-vous avec quelqu'un de notable? Et cette personne notable, c'est l'Éternel, le Dieu vivant, celui qui te donne la vie, celui qui renouvelle la vie, celui qui te guérit de toutes tes maladies, celui qui a porté la plus grande maladie à la croix, c'est ton péché, celui qui t'a pardonné tes péchés. Comment est-ce que tu te présentes devant le Seigneur? Comment est-ce que tu t'es préparé aujourd'hui à rencontrer ce Dieu extraordinaire? Est-ce que pour toi, c'est toujours ce Dieu extraordinaire? Est-ce que c'est ce Dieu qui sort de l'ordinaire? Est-ce que c'est cette personne toute spéciale pour toi? Ou est-ce que nous sommes dans une routine religieuse? Moi, ça m'arrive. J'ai déjà passé la plupart d'entre vous en âge. Je le sais. Combien de fois je peux rencontrer d'une manière religieuse avec des actes que je fais tous les jours, peut-être une manière d'être, une manière de faire. C'est beaucoup plus que cela. On parle de relation vivante avec le Seigneur. Amen. Même si la religion nous donne d'être reliés les uns aux autres, oui, c'est une bonne chose, mais on dépasse la religion, on dépasse la religion dans la dimension de la relation vivante avec Jésus. Est-ce que tu as une relation personnelle, vivante au Seigneur Jésus aujourd'hui? Est-ce que tu l'entretiens encore? Comment est-ce que tu as rencontré ton Dieu ce matin? Et comment est-ce que tu viens dans sa présence? Regardez dans Marc, il y a ce récit sur la transfiguration au chapitre 9. Et là on voit que Pierre, je ne vais pas forcément aller dans tout ce passage, on voit que Pierre malheureusement ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer là, parce que Jésus vraiment est une première fois, on va dire, glorifié, et il révèle qui il est. Et dans ce message, dans ce passage, dans ce qui se fait là, dans la transfiguration, Pierre ne comprend pas ce qu'il fait. Pourquoi? Parce que Pierre était encore animé d'une certaine incrédulité. Pourtant, regardez, au verset 27 du chapitre 8, si on lit « Jésus s'en alla », donc Marc 8, 27, « avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et en chemin, il leur posa cette question, les gens, qui disent-ils que je suis ? Ils dirent Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes. Mais vous, et je pense que le Seigneur t'adresse cette parole ce matin, vous, toi, comment confesses-tu le nom de Jésus ? Qui est Jésus pour toi ? Tu as besoin de cette rencontre ce matin avec le Seigneur, amen. Mais vous, alors il y a peut-être ce que les autres disent, mais en tant que disciple de Jésus, il y a cette question essentielle, vous, qu'est-ce qui sort de votre bouche me concernant? Vous, qui dites-vous que je suis? Et Pierre, vous connaissez le passage? Pierre qui reçoit cette révélation, d'ailleurs d'autres passages, il a dit, mais béni sois-tu Pierre de ce que tu n'as pas reçu cette révélation des hommes, mais de ce que mon Père Céleste a révélé ces choses. Donc on a besoin de révélation, bien-aimé. Et je pense que ce matin, nous avons besoin de retrouver cette dimension de relation et de révélation au Seigneur et avec le Seigneur. L'évangile est une dimension de révélation avant tout. D'accord? On peut connaître l'évangile, on peut connaître des choses sur l'évangile, mais comment est-ce que j'ai expérimenté la bonne nouvelle de l'évangile? Comment est-ce que je l'ai intégré? Qui dites-vous ce matin que je suis? Jésus te pose la question. Jésus pose la question, je ne veux pas être provocateur ce matin, mais il pose la question aussi à l'Église. Mais vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit du tac au tac, du tac au tac, c'est extraordinaire. Tu es le Christ, tu es celui qui est oint, tu es celui qui est venu, tu es celui qui est envoyé du Père, tu es le Christ, je reconnais que tu es celui qui est oint. De l'esprit, de l'onction, des attributs, de tout ce que le Seigneur t'a donné parce que tu es l'Éternel, le Dieu vivant, parce que tu es Jésus, le Christ, celui qui est oint, celui qui a reçu cette mission. Et comment est-ce que je vais accueillir ta mission? Il y a tout ce dialogue qui se fait quand on rencontre le Seigneur. Tu es le Messie, celui qui a tous les attributs divins. Et regardez l'humilité de Jésus. Jésus le recommanda sévèrement de ne dire à personne ce qui le concernait. Ensuite, après cela, il y a l'annonce de la mort et des souffrances de Jésus. C'est bien de rencontrer le Messie, c'est bien de rencontrer celui qui est loin, c'est bien d'avoir, on va dire, cette révélation, cette connaissance, mais pourquoi ? Tout de suite. Et je vous dis, comme les évangiles sont construits, c'est absolument extraordinaire, parce qu'il y a une dimension prophétique, il y a une dimension de révélation dans l'évangile. Tout de suite, Jésus parle de sa mort et de ses souffrances. Et lorsque je rencontre Jésus comme le Messie, lorsque je le confesse, lorsque j'ai reçu cette révélation du Père, il y a cette dimension de souffrance qui est attachée à la rencontre avec Jésus. Et ça, on n'aime pas l'entendre. On préfère se retrouver avec Jésus dans la transfiguration. Recevez, bien-aimés, l'intelligence de la compréhension de la parole de Dieu, de l'intelligence de l'Écriture, de l'intelligence de la construction de l'Écriture. Ça n'a pas été mis n'importe quoi ou n'importe comment. Ce n'est pas n'importe quoi. Ce sont des choses que Dieu a permis qu'elles soient posées de cette manière pour nous enseigner, pour rentrer beaucoup plus dans la révélation et la connaissance de Jésus-Christ. Je suis très intense ce matin. La parole de Dieu est extraordinaire. Alors, Pierre se retrouve dans la transfiguration, il ne comprend pas, il voudrait qu'on construise des tentes pour rester bien dans ce petit cocon, et ce n'est pas comme cela que ça se passe. Bien sûr, Jésus se révèle. Jésus est brillant de lumière parce qu'il est lumière, parce qu'il est amour. Et Pierre est subjugué par son regard, de voir ce qui se passe dans cette transfiguration, de voir même ces deux prophètes, il y a Moïse, il y a Élie, on ne va pas trop épiloguer, mais je pense que ce sont des figures qui avaient rendez-vous là pour quelque chose de précis. Moïse représente la loi, Jésus accomplit la loi, Élie, ce prophète de l'Éternel qui n'a pas connu la mort, Jésus est la résurrection et la vie, il y a plein de clés là à revoir, bien aimé aussi. La parole de Dieu est construite d'une manière extraordinaire. Et voilà que Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne comprend pas trop ce qui se passe, Pierre. Il y a cette confession, tu es le Messie, celui qui vient, et il ne comprend pas vraiment ce qui se passe. Ensuite, il y a cet événement de la guérison d'un démoniaque. La clé de cette guérison du démoniaque, il y a un manque de foi, il y a un manque de foi dans le Seigneur. Et Jésus, au verset 23, va dire au Père, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Après l'événement de la transfiguration, après l'événement de la confession de Pierre qui dit que tu es Christ, tu es le Messie, celui qui devait venir, il y a ce rappel à rester ancré par la foi malgré les événements. Ce n'est pas parce qu'il y a la transfiguration qu'il n'y aura plus de lutte. J'aime mieux vous dire que quand vous êtes confronté à quelqu'un qui souffre, comme quelqu'un d'habité, un démoniaque, qui est là, qui hurle, qui n'en peut plus, je veux dire, qui ne sait même plus qui il est, c'est effroyable. Là, on est vraiment dans le combat spirituel. Et je pense que quand il y a ces rencontres avec le Seigneur, ces rencontres avec le Seigneur nous amènent dans quelque chose de concret de la vie d'ici-bas. Et il y a encore des personnes qui sont malheureusement habitées de choses difficiles. Comment est-ce que nous gérons cela aussi dans l'Église ? Nous confessons que Christ est le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Roi de gloire. Amen. Nous pouvons avoir ces moments aussi de transfiguration avec Jésus. Mais lorsqu'on est dans le concret de la vie de personnes brisées, que ce soit la semaine, parce que l'Église, ce n'est pas que le dimanche. Amen. Est-ce que je suis toujours animé de cette déclaration, de cette confession de foi ? Est-ce que je suis toujours animé du Seigneur, mais viens au secours, parce que là, il y a un cri de ce Père. Je crois que c'est dans ce passage. Hein? Viens au secours de mon incrédulité. Et pourtant, Jésus ne reproche pas l'incrédulité à cet homme, à ce père souffrant de voir son fils qui souffre de cette manière, mais il reproche l'incrédulité à cette race incrédule qui n'a encore rien compris. Je ne dis pas que c'est ici le cas, attention, hein, n'ayez pas une autre compréhension de ce que je voudrais dire, mais on est tellement vite pris dans l'incrédulité, même en ayant Jésus à ses côtés. En voyant Jésus faire tous ces miracles, ces choses absolument extraordinaires, Ce n'est pas parce que tu te tiens à côté de Jésus que tu as compris vraiment toute la révélation. Il faudrait aller beaucoup plus loin que cela. C'est quelque chose qui se passe dans le cœur. Et toute notre histoire d'amour avec Dieu, c'est un cœur à cœur avec le Seigneur. Je peux cohabiter avec Jésus. T'es sympa, Jésus, ouais. C'est super, ça bouge avec toi, ouais. Mais pourquoi ? Tu en es où avec ton cœur ce matin ? Qui dites-vous que je suis ? Ce matin, est-ce que tu es vraiment le Christ, celui qui est loin, celui qui a la puissance et la toute puissance parce que tu as vaincu la mort, alléluia, grâce à ton amour? Est-ce que tu peux confesser dans ta famille que Christ est celui qui est le roi de gloire, qui est celui qui a pris les rênes de ta vie, de ta famille, de ton épouse, non pas pour les opprimer, mais pour leur donner la vie, de tes enfants, de tes difficultés, de ta situation? Est-ce que tu confesses que Christ est le Messie, celui qui est loin, celui qui vient vers toi, celui qui veut te rencontrer, qui veut rencontrer ton cœur ce matin? Il y a de l'incrédulité. Jésus, au travers de la guérison de ce démoniaque, veut révéler l'incrédulité qu'il y a encore dans les cœurs. Et il ne le dit pas à la foule, il ne le dit pas à cette race d'incrédules. Tout est possible à celui qui croit. Il le dit à qui ? Il le dit à ce Père qui est concerné. Et ce matin, l'œuvre de Dieu doit me concerner, bien-aimé. Et lorsque je me sens concerné par l'œuvre de Dieu, dans l'honnêteté d'un homme faible, dans l'honnêteté d'un homme qui connaît ses limites, dans l'honnêteté d'une église faible, on va dire, parce que nous avons des choses à revoir, dans l'honnêteté de frères et sœurs faibles, si nous avons cette honnêteté devant le Seigneur, et de dire « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité », il y a la réponse de Jésus qui se fait à toi dans ton cœur, et il est dit « si tu peux, tout est possible à celui qui croit ». Et le Seigneur veut te révéler ce matin que tout est possible à celui qui croit, dans la mesure où tu te rends compte de ton incrédulité, dans la mesure où tu te rends compte, que tu confesses que tu as besoin de Jésus, dans la mesure où tu te rends compte que tu ne te sens pas un caïd devant l'Éternel, dans la mesure où tu te sens pécheur devant l'Éternel, limité, peut-être brisé. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Il y a 2 semaines, nous parlions sur « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Nous sommes dans les mêmes registres. Dimanche dernier, il a été rappelé « Garde le cap de la foi. » Amen. Garde bien le cap de la foi. Persévère jusqu'au bout. Il a dit « Ceux qui persévéreront jusqu'au bout seront sauvés. » Je ne veux pas mettre de joue étranger ce matin. Je me mets avec nous. Nous sommes ensemble. Et nous désirons, en tant qu'Église, persévérer jusqu'à la fin. Parce que c'est un combat que nous allons mener jusqu'à la fin. Peu de temps après cette guérison du démoniaque qui révélait l'incrédulité, qu'est-ce que fait Jésus ? Jésus annonce de nouveau sa mort, mais avec l'événement de la résurrection. Parce qu'en Christ, vous l'avez compris, il n'y a pas de mort sans résurrection, il n'y a pas de résurrection sans mort. Peut-être que tu en es encore au stade de la mort, mais que tu n'as pas vraiment saisi toute la dimension de la résurrection. En Christ, nous sommes morts en lui. Et parce que nous sommes morts en lui, nous sommes pleinement vivants parce que nous sommes attachés à la résurrection. Amen. Tu peux dire avec moi, je suis attaché à la résurrection et la vie. Amen. Je suis attaché à la résurrection et la vie parce que je suis mort en Christ. Alors, ce n'est pas parce que Jésus annonce sa mort et sa résurrection, on peut le voir ici, je l'ai au verset 30, Marc 8, « Ils partirent de là et traversèrent la Galilée, Jésus ne voulait pas qu'on le sache. Je pense que peut-être le Seigneur te demande de partir d'une situation pour aller plus loin. » Mais de nouveau, dans le but de saisir qui est vraiment Jésus. La discrétion de Jésus qui ne veut pas qu'on le sache. Il est en intimité avec ses disciples. Et on le voit au verset 31 du chapitre 8 de Marc toujours, car il enseignait ses disciples et il leur disait, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette déclaration et ils craignaient de l'éroger. What's going on in here? We are with Jesus. Qu'est-ce qui se passe? On est pourtant avec Jésus. On vient de vivre cette transfiguration. Et il nous annonce de nouveau sa mort et sa résurrection. Et puis, plus loin, regardez comment on peut être charnel. Il y a cette discussion de qui est le plus grand. Parce qu'on n'a pas compris, on a peur de l'interroger. C'est vrai qu'il y a une crainte, je pense, par rapport à cela, parce que je pense que Jésus devait les regarder gentiment. D'ailleurs, on verra après un autre regard aussi. Il devait de toute façon les regarder gentiment, mais ils étaient empruntés. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Et puis, ils arrivent à Capernaum, verset 33. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda, « Mais de quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils s'étaient entretenus. Ils avaient passé le stade de la résurrection, là, hein, et de la mort de Jésus. On revient un petit peu plus terre à terre, là. Et dans ce terre à terre, il y a les questions qui commencent à se poser. Et ils se posent la question, mais qui est le plus grand ? Alors là, je vous dis, c'est l'opposé de la mort et de la résurrection de Jésus. On a beau marcher avec Jésus, on a beau entendre l'Évangile, on a beau entendre et savoir et connaître que nous devons mourir à nous-mêmes et que nous devons ressusciter en Jésus. Si nous ne l'incarnons pas dans nos vies, dans nos cœurs, ressurgissent des choses absolument effroyables, charnelles. Et ces choses charnelles concernent aussi le diable, ça je dois le dire aussi, parce que le diable, je l'ai déjà dit, c'est l'être le plus orgueilleux qui soit, au point de se payer le luxe de vouloir convoiter le trône de Dieu. Et Dieu, Jésus, est la personne la plus humble qu'il soit, parce que lui s'est abaissé et le Père l'a relevé. Il y a un grand écart entre l'orgueil du diable, la monstruosité du diable, toute l'élévation du diable qui n'est que perte, et la bénédiction de Jésus qui lui s'est abaissé jusqu'à la mort de la croix afin qu'il soit élevé. C'est le plus grand écart qu'il y a. L'éternité sépare le diable de Jésus dans l'attitude de cœur. Et Jésus l'a démontré par son amour à la croix. Alléluia. Qui est le plus grand ? Non pas qui est le plus petit, mais c'est un non-sens de poser cette question. Et pourtant, Jésus a voulu montrer que c'était celui qui s'abaissait. On a toujours cette propension à vouloir poser cette question de qui je suis. Est-ce que je suis grand ? Est-ce que je suis bien ? Est-ce que je suis beau ? Est-ce que je suis fort ? Est-ce que je plais ? Est-ce que je brille ? Mais tous ces dialogues-là, je suis désolé de le dire, je le dis, mais je vais choquer, c'est le diable qui les a dit. Il brillait de 1000 feux, de toute la gloire de l'Éternel. C'était un ange qui reflétait toute la gloire de Dieu au point de se dire, mais dis donc, mais c'est moi, c'est grâce à moi que je brille comme ça. Regardez comme je suis beau. Et il s'enorgueillit pour convoiter, se payer le luxe de convoiter le trône de Dieu. Et ça a été sa père bien-aimé. Qui est le plus petit ce matin parmi nous? Je voudrais être celui-là. Je voudrais être celui-là. Voyez ces contrastes. Voyez la richesse de la parole de Dieu. Alors il appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, oui, parce que quand on est plus grand, on veut être aussi le premier. Il est très diplomate, Jésus, là. Qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Pourquoi? Parce que je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. Et c'est notre slogan dans les églises au réveil, sauver pour être servi, pour servir. Et que nous gardions ce slogan dans les églises au réveil, je suis tellement fier de ce slogan, nous sommes sauvés pour servir, et même serviteur de tous. Voyez Jésus qui est absolument psychologue extraordinaire, il prend un enfant, le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir embrassé, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit pas moi-même, mais celui qui m'a envoyé. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ en toi, tu sais qu'il y a Il représente le Père, donc tu as automatiquement cette communion avec le Père céleste. C'est extraordinaire! Le Dieu extraordinairement grand, créateur des cieux et de la terre, révélé au travers de Jésus qui t'habite et qui est avec toi, qui est envoyé pour cette révélation avec toi. Amen. Mais on est fils de roi de gloire. Mais pas pour nous prendre la tête, pas pour nous enorgueillir, mais pour servir et vraiment saisir cette révélation du Seigneur. Saisis ton héritage. On en vient à ce que je voulais nous partager ce matin dans Marc 10, au verset 17, c'est le jeune homme riche. Vous voyez l'introduction là, mais je pense qu'il faut poser parfois le cadre pour vraiment essayer de saisir la dimension de la révélation de la parole de Dieu qui est tellement forte. Et avec le cadre que nous venons de poser maintenant, nous entrons dans ce texte comme Jésus se mettait en chemin, un homme accouru et se jetant à genoux devant lui, il demande « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus se met en chemin, Jésus se met en route. Et il y a cette personne, ici ce jeune homme qui accourt parce que Jésus se met en route. Peut-être que tu as besoin d'accourir et de courir après Jésus parce que Jésus se met en route. Et ce matin, dans cette prédication, Jésus se met aussi en route dans ma vie, bien-aimé. Et je dois certainement le rencontrer, mais comment est-ce que je vais le rencontrer ? Et il se jette à genoux, c'est extraordinaire, devant Jésus et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Parce que cet homme a compris l'enjeu de la vie éternelle. Est-ce que ce matin, en venant ici dans ce lieu, est-ce que j'ai vraiment compris l'enjeu de la vie éternelle ? Des fois, je ne me rends plus compte dans ma routine. Je me rends plus compte que je suis promis, c'est dommage, à la vie éternelle. Je me rends plus compte qu'il y a la vie éternelle qui est devant moi. Et je pourrais même dire que la vie éternelle, dès le moment où je me suis donné à Jésus, elle commence ce jour. Depuis aujourd'hui, en Christ, je vis éternellement. Amen. Donc je ne devrais plus me poser cette question-là. Pourtant, ce jeune homme, on voit qu'il avait encore besoin de cela. Besoin de savoir ce que c'était que la vie éternelle. Alors que moi, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai la grâce de connaître que je vis avec le Seigneur et que je vis dès maintenant, éternellement, que je suis attaché à la résurrection et la vie, et que dès maintenant, je vis éternellement. Quelle perspective d'avenir! Alléluia! Et regardez Jésus, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Il rend gloire de nouveau à son Père. Il n'y en a qu'un qui est digne d'être appelé bon, c'est l'Éternel, d'où notre formule, le bon Dieu. C'est devenu un petit peu religieux, mais ça a toute sa signification. Le bon Dieu, oui, c'est lui seul qui est bon. Regardez dans cet événement, il y a quelque chose qui va nous attirer sur la grâce de l'Éternel. Manifester la bonté de Dieu qui se manifeste dans la bonté de Jésus qui prend le temps avec ce jeune homme. Alors il répond, tu connais les commandements ? Ne commets pas de meurtre, d'adultère, ne dérobe pas, ne dis pas de faux témoignages, ne fais pas de tort, honore ton père et ta mère. Je dois me repositionner par rapport à ça aussi. Je passe un petit peu comme chasseur braise sur cela, mais ne commets pas de meurtre, ça commence dans le cœur. Ne commets pas d'adultère, ça commence dans le cœur. Ne dérobe pas, ça commence dans le cœur. La jalousie. Ne pas avoir ce qu'on voudrait avoir. Si possible, on n'a pas besoin de bosser pour l'avoir. Donc, c'est facile. Quelle lâcheté. Ne dis pas de faux témoignages. Surtout à l'égard du frère, ça fait partie des 7 péchés abominables. De livrer le sang innocent, ce genre de choses. Ne fais pas de tort. Honore ton père et ta mère. C'est étonnant que Jésus, là, ne lui dit pas aime l'Éternel, ton Dieu, ton cœur, ta force, ton âme, ta pensée et ton prochain comme toi-même, mais il lui décrit quand même 2-3 choses. Dans ne fait de tort à personne, on comprend que c'est de l'aimer. Regardez le rendez-vous avec Dieu là. Il lui répondit, donc ce jeune homme, maître, j'ai observé tout cela dès ma jeunesse. Regarde le verset 21. Et je voudrais vraiment que Jésus pose son regard sur toi ce matin après tout ce que nous avons dit. Et ce matin, je le disais, tu as un rendez-vous avec Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu es venu ici. Verset 21, il a dit, Jésus le regarda. Il y a le regard de Jésus qui se pose sur toi ce matin. Amen. Il y a un rendez-vous avec Dieu. Il y a l'éternité qui s'arrête maintenant. Jésus te regarde ce matin. Prends ce regard de Jésus pour toi personnellement. Amen. Jésus t'aime. Regarde, il y a son regard qui s'arrête. Il le regarde, il pose ses yeux sur lui. Mais d'une manière tellement aimante. Et la parole de Dieu va même dire, et c'est un cadeau ce matin que tu reçois, Jésus le regarda et l'aima. Jésus te regarde ce matin et t'aime. Et la rencontre avec Jésus, c'est un regard d'amour sur ta vie. Ce regard d'amour qui s'arrête, il y a un instantané, il y a l'éternité qui s'arrête ce matin pour toi dans ta situation, parce que Jésus t'aime. Amen. Jésus prend le temps pour toi ce matin. Jésus veut s'arrêter, même s'il est en chemin, ce jeune homme court, il s'arrête, il prend les choses au sérieux. Il écoute ce jeune homme, ils ont cette conversation. J'aurais tellement voulu être là, j'aurais tellement voulu voir le regard de Jésus. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a il n'y a pas d'instantané, il n'y avait pas d'appareil de photo à l'époque, heureusement, parce qu'on aurait banalisé l'histoire. Et ce qui est formidable, c'est que dans ton cœur maintenant, je ne vais pas dire qu'il faut faire une fixation, je ne sais pas quoi, mais dans ton cœur, je ne vais pas dire qu'il faut partir dans un flip d'imagination ou je ne sais quoi, mais tu comprends ce qu'on dit ce matin, mais tu as le droit ce matin de dire, mais Seigneur, tu es en train de me regarder ce matin. Et ton regard est un regard d'amour. Il y a une pause. Ce matin, avec Jésus. Ensuite, il lui dit, parce que l'amour, c'est toujours l'amour dans la vérité avec le Seigneur. Vous connaissez ce passage aussi qui dit l'amour dans la vérité. Je me pose la question. Vous voyez ce qu'il dit après Jésus? Il dit, il te manque une chose. Est-ce que Jésus ne s'est pas arrêté, ne l'a pas regardé et ne l'a pas aimé? Parce qu'il lui manquait cette chose. Et ça, c'est une dimension du texte absolument extraordinaire. Il n'était pas parfait, il lui manquait une chose et il avait besoin du regard de Jésus et de l'amour de Jésus pour régler, on va dire, ce qui lui manquait. Et je trouve extraordinaire. Nous avons un Dieu de restauration, nous avons un Dieu de compassion, nous n'avons pas un Dieu qui nous tombe dessus, mais parce qu'il lui manquait quelque chose, l'essentiel, Jésus l'a aimé. Mais ce n'est pas mon histoire, ce n'est pas ton histoire, on ne mérite rien. Jésus à la croix, il a donné sa vie parce qu'il savait que nous étions pécheurs et qu'il nous manquait l'essentiel. Et là, si vous voulez, c'est comme une avance sur son œuvre à la croix. On a parlé de la croix tout à l'heure, mais regardez dans cette histoire-là, on voit la dimension de l'amour de Jésus. Parce qu'il manque quelque chose à ce jeune homme, Jésus le regarde, s'arrête et l'aime. Et c'est la même chose pour toi aujourd'hui. C'est la même chose. Peut-être qu'il te manque plein de choses. Jésus veut s'arrêter, te regarder et t'aimer pour que tu fasses ce choix et que tu prennes la bonne décision. Après, la décision t'appartient, bien sûr, on le voit dans l'histoire. Il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais lui s'assombrit à ses paroles et s'en alla tout triste. Triste sire, oui, car il avait de grands biens. Regardez, ensuite il y a Jésus qui voit cette scène. Malgré tout cet amour qui sort de son regard, Jésus l'amour qui attire, parce que Jésus l'a dit, mais quand je serai aussi élevé, par la suite il le dit, j'attirerai tous les hommes à moi. Donc il y a déjà cette dimension de grâce, d'amour, de compassion qui se dégage de sa vie pour ce jeune homme. Et ensuite, voilà ce jeune homme qui s'en va, tout triste, et Jésus, certainement qu'il le regarde partir, vous observerez qu'il ne va pas courir après ce jeune homme, mais il le regarde partir, puis ensuite son regard, il est où et il regarde autour de lui. Il y a une sensibilité là. Je trouve extraordinaire la manière dont c'est écrit. Jésus regardant autour de lui, parce que ça fait un moment qu'il cherche d'autres regards, peut-être. Ça fait un moment qu'il cherche une connexion. Ça fait un moment, mais est-ce que vous saisissez ce qui est en train de se passer? On parle de la vie éternelle, on parle de choses essentielles ici. Et dans nos vies, c'est aussi comme cela. Il y a des moments clés, des choses essentielles. Et le Seigneur veut que nous ne méprisions pas ces choses. Amen. C'est très intense. Ce sont des perles. Et Jésus qui regarde autour de lui, regardant, c'est un participe présent. Il y a une grande pause, ça a été un moment, ça n'a pas été furtif. Il a vraiment regardé autour de lui, mais qu'est-ce qui se passe? Il revient à ses disciples, de nouveau, ceux qui l'enseignent. Et il leur dit l'amour dans la vérité, qu'il est difficile à ceux qui ont de la fortune d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits à ces paroles. Encore. Jésus reprit et leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Il est plus facile un chameau de passer par le trou d'une aiguille. C'était cette petite porte qu'il y avait dans la muraille de Jérusalem que d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples s'étonnaient encore davantage et se disaient les uns aux autres, « Alors, qui peut être sauvé ?» Jésus le regarde et leur dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car on retrouve cette dimension où on a vu l'histoire de ce démoniaque dont le Père était désespéré. Et Jésus qui leur dit, mais tout est possible à celui qui croit, car tout est possible à Dieu. Dans la dimension de la révélation, de la dimension de la croix, de la mort en Christ et de la résurrection. Et le secret de ce passage, c'est de comprendre vraiment l'œuvre de Jésus à la croix, l'œuvre de grâce dont Dieu nous a rendus bénéficiaires. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais cela, ça passe par cette révélation de Jésus, par la bonne nouvelle de l'Évangile, par cette mort en Jésus, par cette incarnation en Christ, on va dire, par le fait d'être en Christ, mort en Christ, afin d'être vraiment ressuscité et de vivre cette vie de serviteur et de servante de l'Éternel. Amen.